Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40.
Ce rassemblement et cette manifestation ont lieu dans le cadre d'une journée nationale de mobilisation à l'appel de toutes les organisations syndicales aussi au niveau national, de personnel comme des étudiants, que ce soit du côté université mais aussi les organisations syndicales de la recherche public, parce
Frédéric Evrard, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez le syndicat Sud Éducation à l'université Rennes 2 qui, avec d'autres syndicats, exige ce mardi 11 mars un autre budget pour l'enseignement supérieur et la recherche. 11 mars parce que c'est un jour de réunion pour le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors fin janvier, l'université Rennes 2 était bloquée, on s'en rappelle, avec une partie du personnel en grève pour alerter déjà sur la mauvaise santé financière de cet établissement. Depuis, le projet de loi finance 2025 a été adopté à coup de 49-3. Si vous êtes réunis aujourd'hui, c'est que pour vous, on va dire que le compte n'y est pas.
Oui, tout à fait. Le gouvernement a décidé de faire 2 milliards de coupes sur le budget de l'enseignement supérieur et la recherche, ce qui vient aggraver la situation des universités qui est déjà très dégradée. Il faut savoir qu'il y a 60 universités sur 75 en France qui sont aujourd'hui en déficit. Il y en avait seulement une quarantaine il y a 2 ans. Il y en avait très peu il y a 3 ans. Aujourd'hui, on arrive à une situation où effectivement la majorité des universités sont en déficit. Et ça, c'est dû à un sous-financement chronique, des mesures non compensées par l'État. Parce que les universités, depuis les lois d'autonomie, en fait, sont autonomes sur leur budget. Et donc, ce sont des dépenses qui ont été faites pour compenser les hausses de salaire, etc. Mais l'État n'a pas mis la main à la poche. Donc on se retrouve dans une situation critique, sachant que l'université de Rennes 2, elle, accumule un déficit de 4,8 millions d'euros pour l'année dernière, ce qui est énorme. Et pour cette année, on est autour de 4 millions. Donc les déficits s'accumulent, en fait, d'année en année, ce qui met en danger l'université. Et là, on pense que l'université publique est réellement en train de s'effondrer.
Vous estimez qu'aujourd'hui, là, dans le budget qui a finalement été adopté, il manque 8 milliards d'euros pour l'enseignement supérieur et la recherche. Donc un budget là, d'austérité qui s'inscrit, vous l'avez dit, dans un contexte de précarisation croissante des universités. C'est aussi le cas à Rennes 2 avec ce déficit que vous avez mentionné de plusieurs millions d'euros. Et déjà, au mois de janvier, vous faisiez lien avec cette loi qui a changé le fonctionnement des universités en 2007. On peut expliquer un peu le lien entre cette loi qui a plus de 20 ans maintenant et la situation qu'on traverse ?
Oui, tout à fait. En fait, cette loi, c'est la loi Pécresse, une loi relative à l'autonomie des universités, donc adoptée en 2007. C'était un peu dans la continuité de ce qu'on a appelé le processus de Bologne, décidé à la fin des années 90, qui visait au niveau européen à autonomiser chaque université. La première étape, ça a été la réforme licence, master, doctorat, donc qui donnait des diplômes avec des crédits à l'échelle européenne pour que les diplômes soient transposables d'un pays à l'autre. Et la fin de ce processus, ça a été ça. C'était la loi de programmation de la recherche, la LPR. Et aujourd'hui, on voit les conséquences, en fait, 20 ans plus tard. C'est des lois qui ont des conséquences à long terme, en fait. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, effectivement, précarisation accrue. Donc là, on est à un collègue sur 4 précaire dans l'université. Il y a certaines universités où c'est 80% des enseignements qui sont délivrés par des précaires. Et puis, les budgets qui sont en baisse, parce que les universités gèrent leur propre budget, mais n'est pas compensé par l'État. Donc on arrive à une situation où les universités sont en situation de banqueroute et elles sont mises en concurrence les unes par rapport aux autres. Donc c'est absolument délétère. Et aujourd'hui, nous, à l'université de Rennes 2, on est la deuxième université avec l'université de Montpellier, la plus en déficit, parce que aussi la moins dotée. C'est-à-dire qu'on a une dotation par étudiant qui est plus faible que les autres universités françaises. On a 12 millions d'euros chaque année qui manquent, en fait, pour notre fonctionnement. Et ça entraîne des conséquences très graves pour les conditions de travail qui se dégradent, pour les statuts qui se précarisent, et une menace aussi pour les conditions d'études, parce que nos conditions de travail, c'est aussi les conditions d'études. Si on a des bonnes conditions de travail, les conditions d'études pour les étudiants seront favorables. Et là, ce n'est pas le cas du tout.
On le redit aujourd'hui, ce sont 60 des 75 universités françaises qui sont en déficit. Vous avez commencé là à évoquer les conséquences concrètes d'un déficit sur la vie à la fois des étudiants, mais aussi des enseignants et plus largement du personnel. On peut peut-être commencer du côté des enseignants et du personnel. C'est en lien avec des annonces déjà en fait de fermeture de formation de sites.
Mmh. Oui, tout à fait. Alors là, nous, on n'a pas une visibilité sur toutes les universités françaises parce que chaque université a une situation différente. Hein. Bah, c'est aussi le résultat des lois d'autonomie. Donc c'est une situation très hétérogène. Pour nous, à l'université de Rennes 2, il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés donc pour combler ce déficit. Et donc la présence de l'université présente ces scénarios qui vont être acceptés ou non au rectorat. Et ce qui est envisagé, c'est entre 20 et 30 suppressions de postes, moitié enseignants et moitié personnel technique administratif. Donc là, nous, on est vent debout contre ces mesures parce que là, c'est très grave en termes d'attaque pour les conditions de travail. Ça veut dire des services qui vont marcher en sous-effectif, des personnels contractuels qui ne vont pas être renouvelés, des heures de cours qui ne vont plus être effectuées par des contractuels et vacataires. Et derrière ça, on sait que c'est des postes qu'on ne retrouvera pas. 80% de ces postes seront perdus pour toujours. Dans 5 ans, dans 6 ans, même dans 10 ans, on ne retrouvera pas ces postes. Donc ça veut dire qu'on perd aussi des postes de titulaires à long terme. Et ça, c'est extrêmement grave. Après, la présidence pour les étudiants, alors là, elle propose quelque chose qui est aussi très délétère, c'est la suppression de l'enseignement à distance. Savoir que l'enseignement à distance, ça profite aujourd'hui à 2000 étudiants, principalement des étudiants en situation de fragilité, étudiants en situation de handicap, étudiants salariés, famille monoparentale, mais aussi également étudiants détenus, étudiants en détention, pour qui bah, ces formations, c'est un peu le seul moyen d'accéder à une formation universitaire et de se réinsérer. Il y a certaines formations qui tournent avec 80% d'étudiants en situation de détention. Et donc là, suppression des enseignements à distance, c'est le scénario envisagé par la présidence de Rennes 2, et ça va impacter jusqu'à 1800 étudiants qui vont arrêter leurs études. Et on a appris vendredi dernier que les scénarios envisagés où il n'y aurait pas de suppression de cet enseignement à distance serait refusé d'office par le rectorat. Donc là, on est dans une situation où le rectorat impose d'emblée sa volonté et ne laisse pas l'autonomie politique de l'université pour décider des mesures adéquates à adopter. Donc là, on estime que c'est une forme quelque part d'humiliation et on aimerait bien que le président de l'université se positionne, dise qu'il n'est pas d'accord et rentre un petit peu dans un rapport de force avec le rectorat et avec l'État, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Et ça, on le déplore, parce que c'est le représentant de toute la communauté universitaire. Il n'a pas été élu pour uniquement dresser des plans de retour à l'équilibre et faire des mesures d'économie.
Autre conséquence, toujours pour les étudiants, vous avez observé qu'il y avait une menace qui pesait sur certaines formations publiques, dans certaines disciplines plus que dans d'autres. Là, c'est bien à l'échelle nationale, du côté du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche de l'enseignement supérieur sur les formations publiques. C'est aussi le risque qu'il y ait des formations qui n'existent plus ou avec moins de place.
Oui, en fait, là, c'est la question des évaluations, des licences et des masters au niveau national. Les principales universités touchées actuellement, c'est les universités parisiennes et du nord de la France qui ont eu des évaluations défavorables en fait, sur leur licence et leur master, notamment en licence de philosophie, où là, le bilan dressé ferait qu'on n'aurait plus de licence de philosophie dans tout le nord de la France et le nord de Paris. Donc, ce qui est quand même une situation assez hallucinante. Et en fait, ces évaluations-là, elles sont très politiques, c'est des décisions politiques. Et on pense que c'est une manière de camoufler des décisions budgétaires. En fait, on évalue mal des licences et des masters de sciences humaines, de philosophie, pour pouvoir fermer des formations et faire derrière ça des économies. Donc là, c'est les universités, ce qu'on appelle de la vague E, donc nord de Paris, nord de la France, qui sont touchées. Mais bientôt, ça sera aussi les universités du Grand Ouest et puis du reste de la France. Donc on est très inquiets de ces évaluations négatives et on s'y oppose et on les dénonce très fermement.
Vous écoutez Canal B
en FM en Ille-et-Vilaine sur le 94
et partout dans le monde sur canalb.fr.
On a déjà évoqué les suppressions de postes à venir dans le corps enseignant et dans le personnel de l'université. Il faut peut-être ajouter qu'il y a des choses un peu plus, peut-être moins visibles et plus insidieuses qui se jouent dans la façon dont les enseignants sont rémunérés, dans le recours à des contrats courts, à de la vacation, plus encore qu'aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Il y a énormément recours à la vacation aujourd'hui pour les enseignements. Comme je le disais tout à l'heure, certaines universités, c'est 80% de précaires hein, pour les enseignements. Le volume horaire à l'université de Rennes 2, délivré par les vacataires et contractuels, il est énorme. Il y a plein de formations qui ne tourneraient pas sans ces personnels-là. Nous, on dit qu'il faut des titulaires hein, qui occupent les postes d'enseignants. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est bien les vacataires, les contractuels qui occupent ces postes-là. Et ils sont très mal payés. Les contractuels enseignants, notamment en contrat LRU, ils font jusqu'à 600 heures de cours à l'année. C'est trois fois plus qu'un maître de conf. Et ils sont payés au SMIC. Donc c'est une situation catastrophique. Et en plus, ils ne sont pas sûrs d'être un jour CDIsés ou titularisés. Donc c'est des gens qui vont rester 4-5 ans et ensuite qui vont être mis dehors. Donc ça, c'est une situation qu'on dénonce et c'est pour ça qu'on revendique la CDIsation de tous les personnels précaires. Et ensuite, il y a la question des vacataires, donc là, qui sont une armée, en fait, hein, aujourd'hui, une armée de précaires, et qui, eux, sont aussi très mal rémunérés parce qu'en fait, ils sont rémunérés par heure de cours, alors qu'on estime que pour une heure de cours, il y a 4 heures de préparation en amont. Et donc, c'est des gens, en fait, qui travaillent en dessous du SMIC, finalement, parce que leur travail fourni est bien plus grand que les simples heures de cours. Et c'est une situation qui n'est pas du tout acceptable et qu'on dénonce. Donc nous, on exige effectivement cédéisation de ceux qui sont contractuels et qui sont en poste et des créations de postes titulaires.
Les politiques d'austérité dans le champ de l'enseignement et de la recherche, c'est un mouvement qui est en cours depuis longtemps. Je voulais vous demander ce qu'à long terme, ça peut impliquer comme conséquence sur ce champ-là. Est-ce que c'est avant tout en fait, moins de jeunes qui accéderont à la possibilité de développer leur esprit critique, un peu, in fine, et puis même en fait, des pans entiers de la recherche qui pourraient être amenés à disparaître. En ce moment, on voit ce qui se passe aux États-Unis, qui est la logique poussée à son maximum, mais est-ce qu'on se dirige vers des choses comme ça ?
Oui, bah, alors effectivement, l'avenir de la recherche en France et de l'enseignement supérieur public, là, il est vraiment remis en cause, parce qu'on voit dans les chiffres qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui ont recours à des formations supérieures privées. Donc en fait, il y a un transfert du public vers le privé et un financement toujours plus grand du privé. Donc là, c'est très inquiétant. Pour la recherche, bah, les financements, ils se font bien souvent avec des partenariats privés. C'est des financements sur projet aussi également. Donc avec derrière des postes précaires, des gens qui sont là en contrat pendant 2-3 ans sur certains postes financés par projet. Donc ça fragilise la recherche. Et aujourd'hui, on sait bien qu'avec des défis économiques et sociaux, environnementaux qu'on connaît, on a besoin d'une recherche publique forte. Lors du Covid, tout le monde s'est aperçu qu'effectivement, on avait besoin d'une recherche publique très forte, qu'on n'avait pas la capacité de développer des vaccins, etc. Et ben, derrière, on attend des décisions politiques. Mais en fait, il y a des annonces. Oui, on est pour l'innovation, on est pour la recherche. Mais finalement, on voit que le transfert d'argent, il se fait vers le public et pas vers l'enseignement supérieur. Donc là, ça pose vraiment souci. Nous, on dit qu'il faut que bah, la recherche, elle soit financée parce que aussi l'enseignement public, ça veut dire émancipation intellectuelle pour toute une génération. Tous les étudiants qui arrivent à l'université peuvent effectivement développer leur esprit critique, développer librement leur émancipation intellectuelle. C'est des espaces où il y a du débat intellectuel. On n'est pas que là pour se former à un futur métier, mais on est là aussi pour réfléchir sur la société, se poser des questions de société. Et ça, c'est le rôle aussi des universités de sciences et humaine et sociale, et c'est les universités qui sont le plus attaquées aujourd'hui.
On le redit, on connaît aujourd'hui des défis à la fois sociaux, économiques et environnementaux majeurs, d'où votre appel à consacrer des budgets plus importants à l'enseignement et la recherche en France. Alors fin 2024, le président de l'université Rennes 2 soutenait une action de France Université, c'est une association de dirigeants d'établissements de l'enseignement supérieur, et donc Vincent Gouezet avec d'autres s'opposait à des mesures salariales imposées par l'État mais sans compensation. Ce qu'on comprend, c'est que pour vous, ce positionnement ne suffit pas.
Alors oui, effectivement, il y a eu une mobilisation des présidents d'université au mois de décembre. Mais nous, on est mobilisés depuis plus d'un an, en fait. On n'a pas attendu que les présidents d'université se mobilisent. Nous, dès qu'on a su qu'il y avait une situation de déficit à l'université, on a appelé à des assemblées générales et on a appelé le personnel à se mobiliser contre les mesures d'austérité. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que, en dehors de cette mobilisation du mois de décembre qui a eu lieu une journée, il ne s'est pas passé grand-chose. Et l'unité des présidents d'université, en fait, elle n'est pas effective. Chaque université, malheureusement, est mise en concurrence, se bat pour ses propres intérêts et il n'y a pas d'unité face au ministère. Et ça, on le déplore. Nous, on constate que le président de l'université, malgré les annonces qu'il fait de s'être engagé personnellement et de partager nos inquiétudes, au quotidien, il ne renforce pas vraiment la mobilisation. Donc nous, on aimerait bien effectivement qu'il y ait une mobilisation plus forte des présidents d'université, derrière les organisations syndicales, derrière les étudiants qui, eux, ont initié le mouvement, qui, eux, essayent de construire un rapport de force avec l'État pour que les universités aient un meilleur budget et pas seulement pour appliquer les mesures les moins défavorables possibles. Aujourd'hui, les présidents d'université, en fait, ce qu'ils proposent, c'est se couper la jambe droite ou le bras droit. Et c'est de choisir entre ces alternatives qui nous semblent délétères. Donc, non, c'est effectivement pas suffisant et pas satisfaisant. Nous, on appelle à une mobilisation générale de tous les personnels et des étudiants contre l'austérité.
Donc ça commence aujourd'hui, là, ce mardi 11 mars, où il y a un appel à manifestation qui a été initié, avec là déjà des personnes qui sont en train d'arriver sur l'esplanade Charles de Gaulle. On peut redire quels syndicats sont mobilisés? Et puis, est-ce que c'est encore facile de mobiliser les enseignants, les étudiants, sur des sujets qui sont portés depuis longtemps et où on peine à voir un changement de dynamique?
C'est sûr que c'est compliqué de mobiliser aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de mouvements sociaux ces dernières années qui n'ont pas été victorieux. Pour autant, c'est indispensable. Parce que si on ne mène pas le combat, il est perdu d'avance. Ça, c'est une certitude. Et on voit aujourd'hui qu'il y a quand même une large unité à l'échelle nationale. C'est l'ensemble des organisations de l'enseignement supérieur, à la fois du personnel et des étudiants, qui appellent à la mobilisation. Et sur l'Ille-et-Vilaine, c'est 13 organisations quand même, qui appelle aujourd'hui. Et ça, c'est assez inédit. On ne l'a pas vu depuis très longtemps. Je pense qu'on ne l'a pas vu depuis le mouvement contre la LPR, la loi de programmation de la recherche. Et nous, on pense que c'est vers ça qu'on doit aller. On doit aller vers une unité plus forte, de nouvelles dates de mobilisation nationale, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Mais effectivement, il y a ancré une résignation parmi les personnels, un peu moins parmi les étudiants. Et c'est à nous, militants syndicaux, de combattre cette résignation et de dire aux gens, dans l'unité, on peut encore gagner des choses, on peut encore résister. Et ces petites résistances, même si on n'obtient pas tout, au moins on opposera quelque chose et peut-être qu'on gagnera quelques avancées. Et donc j'encourage tous mes collègues à venir aux manifestations et à se mettre en grève sur les prochaines journées de mobilisation, qui est jeudi prochain. On a toutes les organisations de l'enseignement supérieur, de la CGT, CGT FERCSUP, Sud Éducation, de Rennes 1, de Rennes 2, on a l'UNSA, la CFDT, la FSU, et les déclinaisons ensuite de ces organisations-là, Sud Recherche aussi, dans chaque établissement, plus les organisations étudiantes, Solidaires étudiants, l'Union Pirate, la FSE, etc.
En plus des revendications qu'on a déjà évoquées, je rajoute que vous alertez aussi sur la précarité des étudiants, des étudiantes, et que vous réclamez des financements supplémentaires pour le CROUS afin de financer plus de logements et des repas pour tous et toutes. Est-ce que ça vous amène aussi peut-être à imaginer d'autres moyens d'action que la manifestation? Est-ce que c'est un sujet de réflexion dans vos syndicats?
Il y en a plein des moyens d'action, des pétitions, des rassemblements. Mais nous, le moyen d'action en tant que syndicaliste et travailleur avant tout, quand même, c'est de se mobiliser sur son lieu de travail. Donc le moyen le plus immédiat, c'est la grève et la manifestation. On voit effectivement qu'il y a d'autres moyens d'action, mais là surtout qui sont mis en place par les étudiants, comme l'occupation des bâtiments. Le mouvement à Rennes 2, il est quand même parti très fortement par le blocage et l'occupation des bâtiments, qui a fait parler dans toute la France et qui a mis un peu le projecteur sur cette mobilisation. C'est un moyen qui se discute, on peut discuter, on peut ne pas être d'accord, mais force est de constater que c'est un moyen qui attire les regards. Et on peut dire aussi que les étudiants ont mis en place une université populaire, actuellement l'université de Rennes 2, où ils essayent de mettre en place des ateliers de réflexion sur différentes thématiques. Et ça, c'est des choses qui nous semblent tout à fait intéressantes et qu'on encourage. Maintenant, côté personnel, la mobilisation, elle est relativement faible hein, jusqu'à présent. Donc, il y a tout à construire encore. Donc, pour l'instant, on se limite à des moyens, on va dire, plus traditionnels.
Frédéric Evrard, représentant du syndicat Sud Éducation à l'Université Rennes 2, qui, avec d'autres syndicats, exige ce mardi 11 mars un autre budget pour l'enseignement supérieur et la recherche. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Curiosité, c'est terminé. Un programme d'info locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr.